C'est Judith Davis pour PFM. 99.9, c'est du 9. PFM, on les aime.
Tout ce qu'il me reste de la Révolution est le premier film de la comédienne Judith Davis. Il était proposé en avant-première de la 19e édition du Horace Film Festival. Et je peux dire, comme beaucoup d'autres spectateurs, on a eu un véritable coup de cœur pour ce premier long métrage, adapté d'une pièce de théâtre créée par le collectif L'Avantage du Doute en 2009. Le film raconte les pérégrinations d'Angèle et de son entourage, en démontrant avec beaucoup d'humour, voire parfois de cynisme, à quel point il est difficile pour les citoyens engagés de parvenir à concilier leurs idéaux et convictions politiques avec la société de consommation d'aujourd'hui. Certains s'obstinent, lâchent prise, quand d'autres se noient dans le système actuel et le payent cher. Le film aborde également et frontalement les effets psychologiques de la souffrance au travail, même sur les personnes les plus équilibrées. Ce qu'il me reste de la Révolution offre de manière précise et dithyrambique une réflexion fascinante sur le sens donné au travail et aux satisfactions autres que pécuniaires qu'il peut aussi procurer. Un film aux allures de militantisme affirmé et assumé totalement par la comédienne et réalisatrice. Rencontre avec Judith Davis le lendemain matin de la projection publique pour évoquer avec elle son combat militant au travers de son premier long métrage, avec un focus également sur les personnages qui y gravitent. Une interview réalisée avec la complicité de Mona Kwasny.
Bonjour Judith, vous venez de présenter votre premier long métrage hier soir au Festival d'Arras. Comment s'est passé l'accueil ? Quelles sont vos premières impressions ?
Bonjour, oui, alors donc c'était effectivement hier à 19h et j'ai l'impression que ça s'est bien passé. Beaucoup de gens sont restés à la rencontre après. Il y avait voilà une belle écoute, une très belle intervention d'une dame qui a pris la parole assez longtemps, qui a exprimé vraiment plein de choses et qui a été applaudie après par le reste de la salle. Je voyais beaucoup de gens acquiescer, me donner du courage aussi dans mes réponses. C'était un très beau moment que j'apprécie particulièrement dans les festivals, ce que je leur disais justement hier. Comme je viens du théâtre, on a l'habitude d'être vraiment en face des gens et on fait en plus avec le collectif dont je fais partie pas des pièces très longues, et c'est un peu exprès parce qu'on aime bien après pouvoir rencontrer les gens dans le hall, sur le trottoir de manière plus informelle et continuer en fait la discussion à laquelle on invite les spectateurs pendant le spectacle, et ça fait partie de notre démarche vraiment. Et du coup là je retrouve ça grâce au festival, ce qui est une grande chance parce que j'ai vraiment fait ce film pour m'adresser vraiment vraiment à chaque spectateur, et si je peux continuer ça après dans les villes, c'est génial. Voilà.
Vous venez du théâtre, vous êtes aussi dialoguiste, scénariste, actrice forcément, et maintenant réalisatrice. D'abord, votre compagnie, L'Avantage du Doute, hein, vous l'avez créée, et c'est d'abord une pièce hein, justement qui s'appelait Simon, je pense, à la base. Il y a eu aussi un court-métrage, si je ne me trompe pas. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu le passage justement de cette pièce, et peut-être dans l'évolution de l'écriture du scénario, pour un premier film?
C'est vrai, vous avez dit que j'ai beaucoup de casquettes, on va dire, sur ce film. En plus, je joue dedans un rôle principal et tout ça. Donc, c'est vrai que ça pourrait donner une fausse piste un peu de je sais pas, d'autofiction un peu auto-centrée, voilà, ce qui n'aurait rien de mal en soi. Mais c'est pas du tout l'ADN du projet. La compagnie dont je fais partie, je l'ai co-créée avec 4 autres personnes que vous avez découvert à l'écran. Nadir Legrand, Mélanie Bestel, Claire Dumas et Simon Bacouche. Il y a plus de 10 ans, et c'est un collectif, on aime à préciser parce que ça veut dire beaucoup de choses, mais pour nous ça veut dire qu'il n'y a pas de personne décisionnaire à part l'équilibre qu'on va trouver nous, entre nous 5, de la décision, de la responsabilité, tout ce qu'on fait. Et puis on fait tout, on produit, mais on donne les possibilités de nos propres créations. Bien sûr on est aidé pour ça, évidemment, et soutenu, mais on écrit, on met en scène et on joue de manière collective. Donc c'est très particulier, c'est vraiment aussi une façon de vivre, et on avait envie de mettre au cœur de notre façon de travailler la façon dont, différemment d'ailleurs, on envisage quelque chose de politique en fait au sens large. Et donc au début il y a une pièce justement sur l'engagement politique, c'était comme thématiser notre envie de faire du théâtre ensemble, de prendre la parole publiquement, mais aussi de s'organiser de cette manière-là qui n'est pas anodine. Et notre première pièce du coup interroge de manière assez frontale la question de l'engagement. à la lumière de 68, parce que c'est la vie de Simon qui, lui, avait 18 ans 68, n'est pas de notre génération. Et donc, il a articulé comme ça la dramaturgie du spectacle, qui s'appelait « Tout ce qu'il nous reste de la Révolution, c'est Simon ». Un peu comme si on avait, à ce moment-là, trouvé notre totem vivant, notre métaphore sur laquelle projeter notre admiration, notre albol de ces années-là, à travers le comédien réel, quoi. Et en fait, moi, j'étais pas la plus partante pour ce sujet, pour tout vous dire, parce que je viens d'une famille de militants, puis j'avais plutôt envie de parler d'autre chose que de 68. Mais quand j'ai compris que c'était un prétexte pour aussi se positionner sur aujourd'hui, que c'était plutôt un point de départ que quelque chose de documentaire, historique, et sur lequel on n'avait plus rien à apprendre à personne d'un point de vue objectif, quoi, c'est devenu passionnant. Donc on s'est mis à justement se rendre compte que ce qui était intéressant, c'était la multiplication des points de vue et pas justement quelque chose de pseudo-historique. Et donc on s'est mis à interroger Simon, qui n'avait jamais parlé de ces années-là. Et on a trouvé ça incroyable, tout ce qu'il nous a raconté. Il y a d'ailleurs des choses de sa vie qui sont dans le film, le départ au Guatemala. Enfin, il y a plein de, voilà, le maoïsme, l'engagement jusqu'au bout. Et on s'est dit, mais en fait, il faut interroger d'autres gens, puis des gens qui ont vécu 68, mais d'autres qui ne l'ont pas vécu. Et comment est-ce possible ? On s'est mis à interviewer plein de gens avec un questionnaire commun, qui était un peu notre loupe de détective privé, comme ça. Et ça a été ça, le départ. Et moi, après la pièce, non seulement j'étais très heureuse de l'avoir fait, et puis d'avoir tourné beaucoup en France et tout. On était d'ailleurs beaucoup dans le Nord, à Dunkerque, qui est un de nos premiers partenaires. Et en plus, moi, j'avais encore des choses à dire. Donc là, je suis passée au jeu. Et c'est devenu un film parce que le théâtre, c'est le lieu du groupe, du nous. Je ne peux pas expliquer pourquoi. C'est une assemblée face à une autre assemblée. C'est comme ça que je ressens les choses. Et pour m'exprimer en mon nom, c'était ce support plutôt du temps, d'un rapport plus intime que cet espace commun et large qu'est le théâtre. Voilà. Donc j'écris aussi un court-métrage, comme vous l'avez dit, qui s'appelle Un grand soir, qui reprend, qui est avec Simon Bacouche et Claire Dumas. Je pourrais vous envoyer si vous voulez. Ben, je vous en dis pas plus.
Vous parlez d'un premier film, c'est jamais évident quand même d'aller justement derrière la caméra, parce que j'imagine que vous êtes servi aussi de votre expérience de théâtre, mais c'est pas évident. Comment on fait pour passer le premier pas ? C'est toujours intéressant de savoir comment on passe derrière la caméra et comment on argumente et qu'on articule en fait tout ce travail qu'il y a derrière.
C'était pas facile à expliquer surtout, parce que nous on le ressentait, je dis nous, parce que évidemment je l'ai pas fait toute seule. Moi et nous on le ressentait très fort, c'est très intuitif la manière dont on était sûr que ça allait bien se passer. Mais il a fallu un peu l'expliquer. Et puis effectivement, pour cette raison, puis pour d'autres, on m'a pas fait confiance, donc j'ai pas eu de sous pour faire ce film. Mais c'est aussi parce que c'était pas un casting connu, c'est aussi parce que c'est un film qui emprunte à plusieurs tonalités. Il y a de la comédie, il y a du drame familial, il y a de la comédie romantique, quelque chose à laquelle je tenais énormément, parce que pour moi, ça exprime justement la pluralité de notre époque, aussi une forme de difficulté à avoir un engagement, on va dire, global, totalisant. Donc moi, je trouvais assez important de le traduire formellement, puis je pense que c'est important de se réapproprier la joie dans nos questionnements parfois lourds et très déprimants. Et voilà, c'est très important pour moi. C'est déjà une énergie vitale politique, en fait. Mais donc, pour plein de raisons, ça a été difficile à monter. Et notamment parce que c'était un premier film, que j'étais actrice et que j'allais faire les deux. Après, moi, j'ai beaucoup tourné, donc j'ai quand même une expérience du plateau de tournage assez importante. Et ensuite, sur la question du lien entre le jeu et la mise en scène, pour moi, c'est exactement la même chose. Dans ce cas précis, je précise, hein, c'est la même énergie. C'est-à-dire, quand j'écris le scénario, je joue. C'est parce que je joue et que je le valide en tant que comédienne que je sais que c'est le bon ton, que c'est le bon dialogue, que c'est le bon rythme. C'est très musical. C'est parce que je le joue et que je connais les acteurs pour qui j'écris, je sais leur voix, je sais leur débit. Et là, il y a un endroit d'équilibre où quand je l'ai joué dans mon corps physiquement, quoi, je ne sais pas comment dire, je sais que c'est au bon endroit. Et en fait, c'est pareil pour la mise en scène. Je ne parle pas du découpage, qui est vraiment quelque chose que j'ai travaillé autrement et avec la chef-op, mais sur le plateau lui-même, on a toujours l'habitude d'avoir un point aveugle, puisque nous, on est un collectif de théâtre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de regard extérieur, mais ça veut dire qu'il y a toujours un endroit où on fait confiance à celui qui est en train de regarder et qui nous dit non pas « fais ci, fais ça », mais qui nous dit « voilà de quoi ça a l'air et voilà ce que ça raconte, est-ce que c'est ça que tu voulais faire ?» Et ça, c'est notre repère extérieur, mais qui est un endroit de partage et qui est complètement différent de un metteur en scène, on va dire, plus classique ou qui va nous donner la solution. Nous, on défend vraiment un théâtre et une approche du jeu entièrement responsable. Les questions qu'on a dans le film, on les a partagées pour de vrai dans la vraie vie. Donc c'est très différent. On est très habité par ce qu'on va défendre. Et en fait, c'est Claire Dumas qui joue le rôle de Léonore, qui a fait mon binôme, parce que c'est vraiment on est très très proches amicalement et professionnellement. Et donc, en fait, elle me doublait et elle me dirigeait après en me disant ce que je viens de vous dire. Et puis moi, je vérifiais pas toutes les prises parce que c'est fou, on devient fou. Mais vraiment, quand elle avait la sensation qu'on avait la bonne, je la vérifiais. J'en vérifiais une ou deux pour être sûre que j'avais un peu de choix. Et j'avais cette confiance totale en elle, quoi.
Moi, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit au début, sur la question de la génération, parce que il y a plusieurs fois dans le film où votre personnage s'agace du fait qu'on a l'impression que cette génération qui est la vôtre se tait, ne s'engage plus. Est-ce que vous aviez aussi peut-être ce besoin de réhabiliter cette génération-là, puisque vous avez un engagement et par votre collectif et est-ce que c'était un besoin de montrer que vous avez cette énergie et que vous êtes engagé?
Oui, tout à fait. Après, même la question même de la génération, c'est quelque chose que j'interroge dans le film avec humour, parce qu'au début du film, elle passe devant une affiche du Point, qui passe quand même sa vie à monter les gens contre les autres. Je pense que c'est vraiment leur but dans le monde. Je veux dire, les intermittents contre les femmes, les profs contre les jeunes. Enfin, je veux dire, c'est quand même leur but de diviser pour, évidemment, connaître la suite du dicton. Et du coup, le fait même d'appartenir à une génération, c'est quelque chose que je questionne, puisqu'on a commencé à nommer les générations justement après 68. C'est toujours les générations après quelque chose, après ci, après ça. Puis la mienne, au sens large, on va dire, elle a été quand même la génération Sida, la génération X, la génération Chirac. Enfin, moi, j'ai lu un article quand même il y a 12 ans, dans je ne sais plus quel journal, c'était le blues de la génération Chirac. Là, j'ai dit non. En fait, ça ne va pas être possible. Génération, tout le reste, c'était déjà pas très engageant dans la vie, mais génération Chirac, je m'oppose, c'est pas possible en fait. Donc on a vraiment eu tous les noms et tout, donc c'est déjà quelque chose de problématique en soi, qu'est-ce que c'est une génération. Moi je suis très heureuse de travailler avec un homme, ça pose aussi la question de comment on se mélange dans une société, quoi. C'est vachement difficile aujourd'hui de croiser des gens qui ne sont pas issus du même milieu socioculturel, votre tranche d'âge, c'est hyper chiant. Moi, j'ai pas de vie autour de moi, c'est horrible. Enfin, j'ai perdu mes grands-parents il y a longtemps, je les adorais. Où sont les vieux, quoi? Enfin, en gros, c'est pas du tout normal que j'en touche pas, que j'en fréquente pas, c'est pas du tout normal, en fait. Donc bref, tout ça pour vous dire que cette question de génération, elle est un peu spéciale. Mais oui, il y avait cet humour de dire... à chaque fois qu'on fait quelque chose depuis, moi ça fait longtemps que je vais dans des manifs, enfin j'ai vécu les grèves de 95 par exemple, j'étais très jeune mais c'était quand même quelque chose vraiment d'énorme. Bon, à chaque fois qu'on est en âge et en mesure et en je sais pas quoi de faire le moindre truc, c'est le nouveau 68, mais c'est jamais aussi bien que... Donc il y a quelque chose de l'ordre de la confiscation d'une parole officielle comme ça par les gens qui tiennent le mic sur ce qui s'est passé en 68, dont je pense tous les gens qui sont eux-mêmes nés dans les années 60 souffrent déjà en fait. Et ça va jusqu'à Cannes cette année où en plein conflit social d'immense ampleur, le seul film, on est en mai 2018 et le seul film sur la question de cet héritage, c'est La Traversée de Romain Goupil et Daniel Cohn-Bendit. Merci, bonsoir, la boucle est bouclée, enfin c'est un truc de fou quoi. Donc voilà, après c'est pas que par rapport à ça, mais évidemment il y a une analyse, il y a une colère, il y a un sentiment d'absurdité, une violence, une grande urgence pour moi de ne pas me taire. C'est évidemment vital et c'est mon engagement politique réel que j'ai amplifié, non, mais que j'ai empiré mon personnage parce que ça m'importait de créer de la fiction et de l'humour et tout ça. Mais le fait d'allumer des petits feux, comme disent souvent de manière un peu condescendante, sans le vouloir d'ailleurs, c'est souvent même avec paternalisme ou gentillesse, mais des gens qui seraient toujours dans la nostalgie du grand soir, toujours dans la nostalgie d'un engagement politique totalisant qui réglerait de A à Z dans une nouvelle société. Enfin, c'est une conception de l'utopie. Et je pense que l'avoir vécu dans un monde avant la chute du mur et se rendre compte que ça n'a pas marché, ça correspond à une violence, une déception, peut-être dont on ne se remet pas. Et je suis très sensible à ça, parce que c'est déchirant.
mais j'ai pas envie de m'y arrêter, j'ai pas envie de penser que parce qu'on est obligé de multiplier les fronts tellement ça va pas, des bancs une place dans une ville qui est un scandale parce qu'on peut pas s'allonger dessus, à la disparition des abeilles en passant par des gens qui meurent dans la Méditerranée toutes les 10 minutes quoi, je veux dire ça va tellement pas sur tellement de fronts que je pense qu'il faut d'urgence valoriser le fait que l'éclatement de l'engagement n'est pas un pis-aller, c'est-à-dire c'est juste ce qu'on doit faire en fait. Même si ça n'empêche pas de continuer à penser à une société différente et de se battre pour l'inventer avec des idées, des concepts. Mais il y a quand même un engagement pratique qu'il faut absolument faire. Donc voilà, j'avais envie de dire qu'on n'est pas mort, quoi.
C'est toujours tout dit entre nous, Angèle, hein, ça a toujours été la politique du sans-tabou. Au jour d'aujourd'hui, dans la situation telle qu'elle est en ce moment, et c'est très clair, on ne peut pas se permettre de garder un deuxième salarié.
On va prendre un deuxième stagiaire.
Un deuxième MSP, Vincent. Une mise en situation professionnelle. Là, les charges, c'est vraiment trop lourd.
Les cotisations, Annabelle. Les cotisations, pas les charges. C'est pas le même projet de société.
Angèle, ce que je te conseille, c'est d'abord de prendre du temps pour toi, mais de te mettre assez vite en auto-entrepreneur. Ne serait-ce que pour te challenger, parce que je crois que ça peut être très positif aussi, cette flexibilité. Hein?
Oui, ça peut être bien aussi, tout ça. Oui. Et puis, ça te laisse le temps de voir Venise.
De voir Venise?
Non, de voir venir. Angèle, ça te laisse le temps de voir venir.
Ah, d'accord. Non, parce que je croyais que vous me disiez que ça me laissait le temps de voir Venise. Comme je connais pas...
Je suis vraiment désolée.
C'est le monde qui est comme ça.
C'est marrant parce que Vincent, avant d'être mon patron, c'était mon prof. Et à l'école, il disait jamais « c'est le monde qui est comme ça », il disait toujours avec emphase « le monde, c'est nous qui le faisons ».
Votre personnage, donc, Angèle, qui est évidemment une force militante au milieu de gens qui ont aussi, eux, des choses à défendre de leur côté, on a l'impression qu'il y a une sorte d'anarchie mentale, en fait, qui habite ce personnage, qui ne veut absolument pas perdre ses convictions. Et il y a un moment, d'ailleurs, l'intervention que vous faites dans la banque au début, vous citez le poète américain Walt Whitman, avec un extrait du poème, je crois que c'est Feuille d'herbe, je ne me trompe pas, où il y a un mot qui m'a évidemment marqué et qui résume un petit peu ce film, c'est vaincu.
Ouais, le film aurait pu s'appeler Gloire aux vaincus. Je trouvais ça un peu dur, mais... Et à la fin, dans le collectif, elle dit à chaque fois, Samira qui accueille, il y a un nouveau dans le collectif à la fin, un collectif politique dont Angèle fait partie, qu'elle a co-créé, un peu comme je disais, de ma compagnie théâtre. Elle dit « Honneur au nouveau ». Et moi, je me disais, le film aurait pu s'appeler « Honneur au nouveau » et « Gloire au vaincu » et vice-versa. Mais bon, ça marchait pas, mais oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Mickey a gagné, quoi. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut pas se dire que... qu'on continue, quoi, qu'on tient quand même sur nos pieds, solide sur le granit, et on se moque de ce qu'on appelle dissolution. Enfin, je continue de citer Walt Whitman, mais qui revient à quelque chose de peut-être plus humble. Et c'est ça qui est dur à entendre pour les gens qui sont aussi cette autre époque, qui est peut-être plus humble, qui revient à un humanisme aussi très fondamental, un humanisme du corps, d'une dignité du corps, d'une dignité de l'échelle humaine, voilà, d'un humain qui se redresse et qui avance en interrogeant ses préjugés et en n'ayant pas peur de l'inconnu. Je cite aussi Barbara Cassin, je passe du coq à l'âne, mais évidemment c'est peut-être une forme de chaos anarchique, mais peut-être revendiqué, mais qui parle de l'hospitalité dans les traditions païennes. Pourquoi l'hospitalité est une règle d'or? Parce que l'étranger est toujours peut-être un dieu déguisé, on ne sait pas. Quelle inversion du regard par rapport à ce qu'on est en train de traverser. Voilà, donc c'est des gens qui m'aident, quoi, que ce soit qui nous aident, un poète américain sensuel et aventurier, comme la mythologie grecque qui inverse nos valeurs. Oui, c'est un peu le peu d'ordre que Angèle essaie de, ouais, certainement remettre dans sa fougue qui part dans tous les sens et qui est aussi organisée, parce qu'elle est l'héritière d'un certain nombre de valeurs, elle serait capable de les énoncer. Bon, après, c'est par stratégie, hein, que je dis pas plus ce en quoi je crois, c'est juste pour que le silence invite à la réflexion et fasse que les autres se posent la question. Sinon, c'est un programme et je suis disqualifiée avant même d'avoir pu essayer de dire pourquoi je pense que l'hôpital ne doit pas être rentable, en tout cas c'est pas son problème. Bon, j'aurais pu en parler longtemps, mais je me suis dit que c'était pas le lieu, parce que Moi, j'essaie de communiquer un questionnement plutôt que d'essayer de convaincre. Ok, c'est plus humble, c'est sûr, mais faut le faire. On est lent, on est condamné à cette lenteur. C'est sûr que le Front National fait des raisonnements très courts et que ça va beaucoup plus vite. Ça, c'est vraiment le truc qui me fait peur. Qu'on soit à ce point condamné à la lenteur, parce que l'intelligence, ça prend du temps, je suis désolée.
À propos de l'engagement du personnage et d'Angèle, alors qu'elle le dit dès le départ, elle veut rapprocher les gens et qu'il y ait de vrais échanges, du vrai lien, elle est toujours un peu seule. Et est-ce que vous pensez qu'elle est obligée d'être seule dans son combat, hein, que l'engagement l'isole forcément, ou est-ce que vous voulez montrer qu'au contraire, elle peut être entourée et continuer ce combat? Pourquoi cette solitude?
Angèle, c'est un personnage un peu anachronique. J'avais envie de raconter à travers elle la manière dont on peut hériter d'une certaine conception de l'engagement. Il y a une solitude parce que effectivement, elle est très dans la théorie aussi, même si elle est urbaniste et qu'elle s'engage concrètement. Dans sa manière de vivre, elle est très théorique. Elle est capable de dire à un homme qui la trouble, c'est génial tous ces espaces vagues, du coup des gens très différents peuvent se croiser et se parler, et en même temps qu'elle lui dit ça, elle est déjà en train de se tailler la route parce qu'en fait elle a trop peur de justement être dans un endroit vague en train de parler à quelqu'un de différent. Et ça m'amusait de mettre cette contradiction au cœur d'Angèle, parce que pour moi, avec affection, mais aussi parce qu'il y a eu des problèmes liés à ça, je trouve que c'est quelque chose qui me parle de ce temps d'avant. Moi, j'ai vu mes parents ou leurs amis ou que sais-je être vraiment dans un humanisme parfois théorique, mais dans une incapacité parfois à vivre avec leur entourage proche dans quelque chose justement de... C'est pas le cas de tout le monde, mais c'est quand même quelque chose qui est lié à l'idéologie, en fait. Voilà, dans une approche, pour vous donner un exemple concret... Qu'est-ce qu'on fait de la famille quand on en a une, alors même que théoriquement, on remet en cause la famille comme valeur bourgeoise? Ça crée tout de suite une contradiction. Forcément, l'amour ou l'amitié, c'est en deçà de la révolution. C'est moins bien, c'est négligeable, c'est presque... C'est les frottements dont parle Saïd. Bon, ça, c'est les frottements, on verra plus tard. Voilà, c'est... Alors peut-être que quand on est, je sais pas, dans la résistance, il y a une forme de vie qui finalement... dans un entourage proche prend le relais sur ça, mais moi j'avais envie de montrer que justement c'était les limites aussi de cette conception là et qu'aujourd'hui on pouvait peut-être profiter de l'époque qu'on vit pour remettre ça aussi au centre, les relations sociales, pas les juger ou les disqualifier tout de suite en disant mais non, mais ça c'est pas politique, c'est la vie privée. Bon, mais peut-être que la vie privée et que la vie publique s'opposent pas et peuvent se compléter, qu'on peut passer de l'un à l'autre sans trahir personne ni qui que ce soit, quoi. C'est pour ça que le trajet d'Angèle, c'est accepter l'autre dans son quotidien, quoi.
C'est vrai que vous avez pas de chance. Nous, à notre époque, c'était différent. À ton âge, on trouvait du boulot comme ça. Et puis, on était dans le loup. Ah, mais ça, tu peux pas comprendre. On mettait le tracteur en pilote automatique et on lisait des poèmes. On avait une autre vision du monde, quoi. Le monde venait à nous dès qu'on ouvrait les fenêtres. On ouvrait les regards, on ouvrait les vannes, on ouvrait tout.
Ah ouais, on ouvrait tout, on ouvrait les fenêtres.
On ouvrait les cœurs.
Viens dans ta gueule d'ailleurs, hein. J'ouvre la fenêtre, bam, je te défonce la gueule au passage. Non mais, oh, c'était une époque incroyable, hein. Vous êtes vraiment pas nés au bon moment, quoi. Là, c'est un petit peu bouché, là, en termes d'horizon. Mais on vous repasse le flambeau, hein, les petits jeunes, là. À vous de jouer, ils sont un peu mous du cul, ces jeunes d'aujourd'hui, non? Non mais ils sont sympathiques, mais ils sont pas comme nous, hein. Bon, à notre époque, c'était vraiment. Allez, à vous de jouer, là. Qu'est-ce que tu veux, nous? On est vieux, hein. Puis on va surtout pas lâcher nos super postes, super bien payés. Super, je vous encule, hein, puis on va continuer à construire des duty free, puis des centres-villes de merde qui ont tous la même gueule pour rembourser notre petite maison à l'île de Ré, hein, camarade? Non, mais parce que.
Oh,
attends, ce qui compte, c'est de rester debout, le poing levé, hein, puis ratadala, hein, comme à l'époque!
Les rapports, évidemment, avec l'environnement d'Angèle, hein, les rapports avec la famille, avec le collectif, ils sont multiples. Il y a des complicités multiples, si je peux m'exprimer ainsi. La complicité, évidemment, avec le père, la conflictualité avec la sœur, et on comprend pourquoi, bien évidemment. Il y a aussi cette forme de complicité que j'appellerais de liberticide avec Saïd, puisqu'on a l'impression que, vous le dites d'ailleurs dans le film, hein, l'amour, j'ai pas le temps, voilà, vous voulez absolument garder aux convictions. C'est quelque chose évidemment qui est très important et qui montre aussi que chaque personnage justement a quelque chose à défendre, un point de vue. Et moi, je trouve que c'est plutôt bien amené, cet environnement familial, justement. Vous pouvez peut-être nous résumer un petit peu en quelques mots comment, l'écriture du scénario, vous avez configuré tout ça.
Moi, j'avais envie que ça soit un film où, évidemment, il y a un personnage principal, parce que j'étais dans l'écriture, j'ai choisi voilà, de défendre un point de vue, puis de, que ce soit celui du film. Mais ça, la notion de... Il y a beaucoup de personnages secondaires, on dit, mais ça m'importait beaucoup, il m'importe vraiment énormément. J'avais déjà envie d'avoir un regard tendre sur eux tous, de les aimer, et de, que tous les personnages aient non pas... Bon, bien sûr, on est une troupe d'acteurs, donc c'est important que chacun, nous on dit dans la compagnie, ait son œuf. Bon, c'est un peu moche, mais en gros, ça veut dire être sûr que dans chaque spectacle... À un moment ou à un autre, on a dit ce qu'on avait à dire sur la question. C'est très important et donc en fait j'ai appliqué ça pour les personnages. Je trouvais que c'était important qu'à un moment ou à un autre, ils représentent et ils animent le dilemme que leur personnage incarne dans la société, quoi. Donc que ce soit celui de Simon, le père, qui est dans cette tendresse et cet engagement continu, mais qui est en contradiction avec la manière dont il a élevé ses filles et sur le plan intime, ce qu'il a continué à raconter. Le beau-frère qui dit que tout va bien alors qu'il y a une colère refoulée qui est en train de le détruire. La sœur qui est aussi pas à l'aise et qui comprend pas en fait ce qui lui est arrivé. Enfin, tous les personnages pour moi expriment à un moment donné un dilemme qui pour moi raconte les dilemmes de notre société, notre difficulté à appliquer dans nos vies nos idées politiques. Et c'est des dilemmes qui nous déchirent, on en a peut-être pas conscience, mais je pense que c'est un film aussi sur cette douleur qu'ont les gens, quelqu'un comme Stéphane, comme quelqu'un comme Angèle, de ne pas pouvoir faire plus pour la société dans laquelle on vit. C'est dur, quoi. On ne sait pas par quel bout la prendre, et je pense que ce soit conscient ou pas, ça fait mal à notre humanité, parce que franchement, si on vit en société, c'est quand même pour que ça aille mieux, quoi. Enfin, en gros, sinon, on se lâche tous dans la jungle, on fait notre cabane, et puis on se bat quand il n'y a que un truc à bouffer pour deux, quoi. Enfin, on revient à ça. Enfin, je veux dire, normalement, la société, c'est pour qu'on prenne soin les uns des autres mieux. C'est pas du tout ce qu'on est en train de faire, quoi. C'est exprès que je dis un truc hyper basique, parce que c'est juste, encore une fois, la question du « mais pourquoi ?» en fait. Pourquoi l'hôpital est dans cet état? Pourquoi? Enfin, donc tous les personnages avaient envie qu'ils aient leur dilemme et je trouve qu'une famille c'est passionnant parce que ça exacerbe les conflits, ça c'est jamais la meilleure partie de nous. Combien de fois on est à Noël, on s'est encore charclé avec la cousine, je sais pas quoi, quand on se dit mais pourquoi je me remets dans cet état-là? Je ne suis pas, tu sais que je ne suis pas cette personne. Tu sais que dans ma vie normale, je suis quelqu'un de sympa et que je ne crie jamais. Enfin vraiment, je trouve ça incroyable en fait comment cette micro-société exacerbe des choses complètement irrationnelles de nous. Ça me plaît, j'ai beaucoup d'affection pour ça en fait.
Et puis à Diane, votre mère, dont on parle beaucoup tout le long du film et qui apparaît vraiment à la fin, on a un peu l'impression d'un fantôme. Alors même dans la façon de la voir à l'écran, il y a quelque chose de très très translucide chez cette Diane.
Ouais, tout à fait. Ben, c'est un personnage, déjà c'est l'actrice Mireille Perrier qui nous apporte aussi en tant que spectateur une émotion de spectateur, une émotion de cinéma. On pense à la fin de La Nouvelle Vague, on pense à elle jeune, donc... Tout le film, il y a quelque chose d'assez prosaïque comme ça, volontairement, dans la forme, dans le... Et j'avais très envie que pour ce personnage, qui est quand même un fantasme et un mythe, pour une surface vraiment de rêve et de projection pour le personnage principal, ça le soit aussi du coup pour le spectateur. Et donc, de la traiter effectivement de manière fantomatique, c'est-à-dire au départ c'est une archive, donc un souvenir, puis c'est une voix, il y a un souvenir, puis c'est une écriture, on la découvre dans le livre qu'elle a laissé dans ce carton. Voilà, et que petit à petit, on est comme ça des indices et des empreintes d'une présence disparue, donc d'une absence, jusqu'à ce qu'on la retrouve pareil par étapes. C'est d'abord des femmes qui ne sont pas elles, puis on entend la voix, puis on voit que ses mains à travers les paravents, et enfin, elle fait son entrée... Voilà, qui est comme je souhaitais, c'est-à-dire vraiment, comme on dit, faire son entrée. Donc, oui, c'est ça, c'est en mise en scène, j'ai vraiment traité ça comme le retour de quelque chose de fantomatique qui va s'incarner petit à petit, parce que c'est ça la vie et la découverte d'Angèle. J'avais pas du tout envie que ça se passe sur un plan justement idéologique et d'affrontement d'idées ou de règlement de compte. Elles sont dans le silence et ça passe par... elles vont se rencontrer, elles vont pas... Elles vont se découvrir dans le futur du film, mais que ça passe par les corps, que ça passe par le silence.
Notamment dans la dernière scène, dans le lac, où vous la touchez, d'une manière assez... c'est une redécouverte, en fait.
Exactement, oui, tout à fait. Ben, donc, j'étais attachée à l'élément de l'eau. Pour moi, elle se... Ouais, tout à fait, elle se rencontre. Et il y a une étrangeté. Et je trouvais que c'était beau, le geste qu'Angèle fait sur le visage de sa mère. C'est à la fois un geste qui met à distance, parce que c'est pas vraiment une caresse, et en même temps qui reprend contact. Donc j'aimais bien cette ambivalence quand on est face à du familier, viscéral, et en même temps une étrangeté, et que c'est une promesse de futur, quoi. Mais on sait pas quelle sera leur relation. Mais...
J'aurais aimé parler un peu du personnage de Saïd, qu'on a peut-être moins évoqué. Oui, j'aurais voulu savoir ce que vous vouliez lui faire dire. Est-ce que c'est vous vouliez montrer une autre forme d'engagement? Parce que lui, il est peut-être plus ancré dans son époque, tandis qu'Angèle, vous le disiez, est un peu anachronique, et lui est plus... comment dire? Il n'idéalise plus vraiment ce passé, et il est peut-être plus réaliste. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce personnage?
Ouais, le personnage de Saïd, je parlais des dilemmes tout à l'heure des personnages. Je pense qu'il y en a deux qui ont fait des choix. Deux personnages, c'est la mère, Diane, et Saïd. Saïd, j'avais envie de parler de... Enfin, de montrer un personnage solaire et qui a fait un choix clair. Il est sur le fil. Heureusement, il est magnifiquement interprété par Malik Zidi. Sur le fil, ça, je n'aurais pas su à quel point il savait interpréter cet endroit-là de jeu. On aurait pu penser qu'il était un peu niais ou un peu, je sais pas quoi, farfelu, poète-poète, quoi. Je sais pas comment dire, mais en fait, pas du tout. Il a choisi d'être dans la vie, il a choisi d'avoir un rapport poétique au monde et du coup, que cet instinct-là guide son rapport aux autres. Intuitivement, il est celui qui trouve la campagne au milieu et la nature retrouvée dans une partie de la ville bétonnée complètement. Enfin, la petite ceinture sur laquelle il emmène Angèle. Voilà, c'est vraiment savoir trouver et voir et reconstituer même le beau là où ça semble perdu. Donc je trouve que c'est une attitude de base qui est très importante. Je parlais de la joie tout à l'heure, de l'enthousiasme. Franchement, faut qu'on se dise que ça va aller, en fait, parce que sinon, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. On peut pas passer nos journées à se dire qu'on en a pour 50 ans, que la Terre va imploser, qu'il y a un continent plastique et que Trump va nous exterminer avec le président brésilien. Enfin, en gros, vraiment, on va trop souffrir, enfin... Je dis pas, on s'en fout et on fait notre bulle avec notre Labrador et notre Volvo Break. Franchement, je dis pas du tout ça, mais au contraire. J'ai fait un stage l'année dernière avec plein de gens différents au théâtre et il y avait un réfugié malien de 17 ans qui était là. Mais, enfin, non, mais vraiment, pardon, j'enfonce des portes ouvertes, ça a l'air vraiment hyper réinventer l'eau tiède et tout ça, mais juste se parler, s'écouter, se mettre autour de la table, être ensemble, mais c'est un bien mutuel qu'on se fait, mais c'est tellement la base que je dis, mais on a le droit que ça soit pas sur le mode du sacerdoce ou du sacrifice ou de la peine permanente ou de la flagellation, d'une mélancolie totale, du grand soir et des lendemains qui chanteront jamais, enfin... En fait, c'est... Tout ça est très dur, mais il y a de la vie aussi, il y a beaucoup de vie. Et on en a besoin, tout le monde, en fait, tout le monde, sur le même plan, quoi. Et pour moi, il raconte ça, Saïd, quoi. Et à un moment donné, il remet Steve à sa place en disant « Non, l'école, c'est gratuit, c'est pour tout le monde, c'est un choix, ça. » Et j'aimais bien que juste dans une phrase, on se dise « Ah, ok, il sait aussi pourquoi lui, il est instituteur, il sait à quel endroit il est de l'éducation et de ce que ça raconte. » Voilà, c'est juste en une phrase. Et le reste du temps, il a cette attitude avec les enfants. Enfin, vous avez vu le film, mais j'aimais ce qu'il soit dans la vie et que ça soit un choix. D'être dans la joie et dans l'élan vital, dans la puissance d'agir, en fait.
Justement, ma dernière question concerne les dialogues. je trouve plutôt très acéré. Il y a des sortes de punchlines qui sortent un petit peu partout, notamment au sein du collectif, avec l'évocation de Johnny Rotted, hein, qui a vraiment fait une pub pour du beurre, hein, donc ça c'est réel. Et puis cette fameuse scène devant la banque avec les enfants, on dit toujours que la vérité sort de la bouche des enfants. Cette fameuse phrase, c'est est-ce qu'on fait pipi sur la banque ou c'est la banque qui nous fait pipi dessus? Et ça, j'ai trouvé quand même plutôt ça très 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 agréable à entendre.
Alors oui, il y a grave des punchlines. Oui, moi j'adore les dialogues, je trouve ça passionnant. C'est aussi un film sur le langage, j'en peux plus qu'on fasse dire n'importe quoi aux mots parce que c'est devenu un business, les mots. C'est même les mots sont un business, voilà. Donc ça vient évidemment de cette intuition-là, mais j'adore ça. Donc en fait, je mélange des structures, le burlesque habite le film, y compris dans la manière d'écrire les dialogues. J'aime beaucoup utiliser par exemple une structure de comique pure ou même de vaudeville, une mécanique, et lui faire dire en fait pas du tout des trucs de Ciel, mon mari, le placard et compagnie. Donc par exemple la scène du pourquoi. Elle dit pourquoi on vit comme on vit, pourquoi on peut plus la poser la question du pourquoi et pourquoi. Enfin, il y a une espèce. Et ben, c'est un comique de répétition classique. Enfin, ouais. Vraiment, c'est une mécanique vieille comme le monde. Sauf que j'aime l'utiliser pour raconter quelque chose de plus politique. Du coup, même dans les scènes plus dramatiques, je cache des rimes ou des manières d'enchaîner des phrases pour qu'il y ait quand même de l'humour, qu'il y ait quand même quelque chose de tenu. Ça, j'y tiens beaucoup. Ben, à la banque, là, je sais plus d'où ça. D'où ça me venait, et dans le collectif, vous parliez de Johnny Rotten. Oui, 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 c'est très écrit, le film il est très 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 écrit, à part le happening du Pôle emploi où Claire improvise sur un canevas qu'on a écrit ensemble. Et elle a besoin, pour se mettre dans cet état de jeu, d'être dans une impro totale, ce qui est admirable. Le ping-pong, et puis c'est un film qui joue très vite en fait. Nous, moi j'aime ça, bon, c'est un rythme de comédie, la rapidité, mais c'est vraiment... Il est mené tambour battant, pour moi c'est important, jusqu'à évidemment le moment où Angèle se tait pour pouvoir regarder et où du coup les silences prennent tout leur poids, y compris dans les scènes où je les fais durer. Mais pour moi, encore une fois, je vous disais tout à l'heure, c'est très musical tout ça, et du coup ça m'est même arrivé au montage, alors même qu'on joue très très vite tous, de encore resserrer le temps entre les répliques. Pour créer des effets de comique, pour créer et aussi une sensation de fièvre comme ça, voilà.
Ouais. Un peu un combat de boxe en fait.
Mmh. Ouais, et je crois que c'est aussi c'est peut-être une rapidité qui m'habite et que j'avais besoin de sortir. Enfin, et puis c'est une source de comédie quand au début personne se répond, tu restes dîner, j'ai acheté les rideaux de douche, c'est toi qui as acheté les rideaux de douche, pas du tout, j'aime ça colle, prends les ventouses, j'ai fait l'alphabet, tu restes le dîner. En fait, pour moi, c'est ça une famille aussi, quoi. Ça s'enchaîne, personne s'écoute, personne se répond. Enfin, vraiment enchaîner des répliques qui répondent à celles de quatre avant, ça me fait trop rire, quoi.
Désolée, je peux pas tirer d'argent parce qu'on m'a retiré ma carte. Mais sinon, je voulais simplement vous dire que mettre un distributeur CIC à la place du café sympa qu'il y avait avant, c'est une très très bonne idée parce que comme il n'y avait pas déjà un distributeur CIC en face, moi je trouve ça super.
Salut, t'habites dans le coin?
Pas loin, ça va?
Monsieur, la dame elle a fait un zizi sur la bord.
Effectivement. Et donc comme toujours, ce qui est important, c'est le dessin et...
la symbolique.
Exactement. Le dessin par rapport à ce que symbolise le site. Ici, bah, c'est la banque. Hein.
Ça veut dire qu'on fait pipi sur la banque?
Ouais, si, on fait pipi sur la banque.
Ou alors c'est elle qui nous fait pipi dessus.
Oh. Bon, on va demander à l'auteur, puisqu'on a la chance de l'avoir sous la main. Hein, Angèle?
Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est plutôt un doigt d'honneur qu'un zizi. C'est vrai que c'est assez difficile à dessiner rapidement avec la perspective.
Vous avez tout à fait le droit d'interpréter comme vous voulez. Hein. Un zizi, un doigt, c'est une interprétation.
Voilà. De toute façon, c'est à peu près la même idée générale. Enfin, les doigts, les zizi.
C'est collectif, ça m'a complètement redynamisé. Quoi. On a organisé des sorties en ville avec les petits. On regarde comment les murs ont la parole. Venez les enfants, on va montrer à mon ami notre allée sauvage. Ça vous dit? Hein? L'allée sauvage? Ça va très bien le verre. Allez.
C'était un entretien avec Judith Davis, comédienne et réalisatrice de Ce qu'il me reste de la Révolution, son premier long métrage proposé en avant-première dans le cadre de la 19e édition du Arras Film Festival. Le film sortira en salle le 6 février 2019.